chronique de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Chers auditeurs, je suis très heureux aujourd'hui de reprendre la parole pour ma chronique sur la francophonie. Elle s'intitule « Des livres sur la francophonie et sur la langue française ». Tous les militants du français dans le monde seront heureux d'apprendre que le rapport 2010 publié par l'Organisation internationale de la francophonie et préfacé par son secrétaire général, M. Abdou Diouf, vient de paraître. Ça s'intitule « La langue française dans le monde 2010 », préface de M. Abdou Diouf, Paris, édition Nathan 2010. L'ouvrage a été réalisé par l'équipe de l'Observatoire de la langue française, dont le responsable est Alexandre Wolf. Comme lors des précédentes éditions, la dernière remonte à 2007, il fournit de nombreuses données quantitatives et qualitatives sur la place que le français occupe sur la planète. À partir des sources les plus fiables et qui sont plutôt minimisées, soulignent les rédacteurs, je souligne, il est précisé que l'espace francophone accueille 220 millions de locuteurs, chiffre en nette progression depuis 5 ans. À cette information clé, il faut ajouter les 116 millions de personnes qui apprennent le français, il y en avait 100 il y a une dizaine d'années, l'une des seules langues à être enseignée dans tous les pays, en dépit des restrictions liées au fait que le choix d'une seule langue étrangère, qui tend à s'imposer notamment en Europe, freine son développement. Le rapport confirme que pas moins de 70 États et gouvernements sont membres et observateurs de la francophonie. Je précise que lors du 13e sommet qui a eu lieu à Montreux, il y a maintenant 75 États et gouvernements qui sont membres et observateurs de la francophonie. Donc vous voyez, il y a vraiment sans arrêt une progression très intéressante. Et que le français a été choisi comme langue officielle par 32 États et gouvernements contre 30 auparavant. Lorsque les auteurs évoquent la place du français dans les organisations internationales, ils semblent faire preuve d'un certain pessimisme. Il est vrai que l'anglais a gagné beaucoup de terrain ces dernières années, mais le français résiste en général bien mieux qu'on ne le croit. Il suffit de lire le rapport de Thierry Chopin et Marek Kubista, titré « La présence du français au sein des institutions communautaires », publié par la très dynamique Fondation Robert Schuman, présidée par Jean-Dominique Giuliani, pour en être persuadé. Cela dit, le rapport de l'OIF rencontre de l'actualité de la langue française avec le double souci de dresser un état des lieux, ce n'est pas évident, afin de saisir les évolutions dans plusieurs domaines, d'une part l'enseignement du et en français, en collaboration avec les langues africaines et créoles, d'autre part en s'intéressant à la vitalité des expressions culturelles et médiatiques en français. D'autres secteurs sont également abordés comme les usages de notre langue, les coopérations francophones et l'actualité juridique et sociale du français. Dans ce domaine précis, il me faut signaler l'ouvrage de Jean-Claude Amboise, « L'utilisation de la langue française face aux langues étrangères, les garanties juridiques ». Université de Lille, on peut se procurer ce livre important au 9 rue A. Angelier, 59 046 Lille, CEDEX et le téléphone 03 20 30 31 63. Les résultats de cette observation générale doivent servir à élaborer des stratégies indispensables pour contrer l'unilinguisme et, comme le soulignent les auteurs, observer, c'est déjà agir. Nul doute que les paradigmes évoqués au fil des pages, aussi bien en Afrique, au Vietnam, à Madagascar ou au Québec, montrent toute la difficulté qu'il y a à vouloir unifier la définition de francophone. Pour aboutir à des résultats concrets, il est en effet indispensable de nouer des partenariats entre tous les acteurs de l'observation. Ce livre est assurément un ouvrage de référence pour les étudiants, les chercheurs, les décideurs et les observateurs. Pour encore mieux aider les lecteurs, quelques tableaux très synthétiques sous forme de rappel auraient pu être placés à la fin de chaque chapitre. Un seul bémol concerne la bibliographie qui ne rend pas suffisamment justice aux essayistes de la francophonie. Il est vrai que les aspects linguistiques inévitables dans ce genre d'approche ne laissent guère de place à la littérature et à une pensée, disons, créatrice. En dépit de ces quelques remarques, ce livre est important. Comme toute entreprise majeure, il nous donne beaucoup d'informations fiables et sérieuses. De la créativité liée à une information magistrale, le dictionnaire des écrivains francophones classiques, ou dirigé par Christiane Chollet-Achour, avec une préface de Bernard Cerchiglini, chez Honoré Champion, 2010. Donc, dictionnaire des écrivains francophones classiques en Afrique subsaharienne, Caraïbes, Maghreb, Océan Indien, en a à revendre. Après 60 ans de trésors accumulés, on mesure tout le chemin parcouru par les 105 écrivains francophones retenus par Christiane Chollet-Achour avec la collaboration de Corinne Blanchard. Ce dictionnaire vient de paraître dans la prestigieuse collection Champion, Les Dictionnaires, laquelle est dirigée par un expert reconnu de tous en France et dans le monde entier que vous connaissez, l'universitaire Jean Pruvot. Ce dernier vient d'ailleurs de publier dans la collection Champion les mots, d'abord en collaboration avec Samuel Soufi, un livre sur la mer. Donc Samuel Soufi et Jean Pruvot, La mer, préface par Elisabeth Badinter, édition Honoré Champion 2010. Un chef-d'œuvre d'érudition à la portée de tous. Et ensuite un essai sur le vin, donc toujours de Jean Pruvot, Le vin, préfacé par Bernard Cerchiglini, édition Honoré Champion 2010. Rappel joyeux et ô combien nécessaire pour en savoir plus sur les définitions les plus importantes sur le vin dans la langue française. Mais revenons à notre dictionnaire. Dans une préface éclairante, généreuse, soucieuse de rendre à César ce qui est à César, Bernard Cerchiglini, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, souligne de façon méthodique et éclairante l'originalité de ce dictionnaire. Son titre, je cite, « son titre la proclame. Elle réside dans le choix de son espace, celui de la francophonie, et dans le paradoxe de reconnaître les écrivains francophones comme des classiques. » Fin de la citation. Il est en effet plus que temps de cesser de vouloir isoler la littérature francophone de la littérature française. Christiane Chollet-Achour suit à merveille les pistes explorées jadis par les professeurs Auguste Viat et Liliane Castello, pour ne citer que ces deux pionniers. L'originalité de ce dictionnaire repose, entre autres, sur l'invention d'une cartographie, vaste invitation au voyage, au rêve, à la découverte de l'autre, véritable immersion dans la réalité du donné et du recevoir. Grâce à ces 105 présentations passionnantes, les auteurs nous offrent un outil de travail qui s'adresse aussi bien aux spécialistes et aux étudiants qu'au grand public, désireux de pénétrer dans d'autres planètes littéraires et émotionnelles. Ce dictionnaire est la preuve vivante que le français continue d'être une langue universelle. Le lecteur, alléché par une telle richesse, a devant lui un immense Lego mécano qu'il peut utiliser à volonté. Avec allégresse, il explore tous ces horizons méconnus qui émergent soudain devant lui. Découvrir, redécouvrir, approfondir l'itinéraire d'une série d'écrivains comme Aimé Césaire, Cheikh Hamidou Khan, Amin Maalouf, Albert Memmi, Léopold Sédar Senghor et Salah Stettier, tout cela nous entraîne dans une myriade de sens, à la fois guide et boussole. Ce dictionnaire l'est assurément. Grâce à lui, le français gagne des territoires, échappe à ses petits horizons pour prendre enfin la pleine mesure du monde. L'apport de tous ces écrivains est considérable. Leurs nombreuses réalisations viennent nous rappeler que la vie n'existe que dans les échanges. Aux statistiques fort intéressantes que le dernier rapport de l'OIF, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie, nous apporte, viennent s'ajouter superbes concrétisations, le flamboiement de tant d'œuvres réunies dans ce dictionnaire, essentiel pour apprécier le talent venu de ces multiples francophonies qui enrichissent la langue française, langue commune et partagée, guide aussi vers d'autres langues. À ce florilège sur la francophonie, on peut ajouter trois autres ouvrages. Le premier, écrit par Christian Valentin, s'intitule « Une histoire de la francophonie 1970-2010 » avec une préface de Michel Guilloux aux éditions Belin, donc 2010. Dans cet essai, ce militant exprime sa passion et n'hésite pas à dire que l'on ne fera pas la francophonie contre les peuples. Il s'interroge aussi sur la cohérence du projet dont les actions ont trop souvent été menées de façon un peu dispersée. Avec lui, on comprend mieux que la décennie 2000-2010 a été une période charnière. Elle a vu en effet passer quelques réformes pour mieux essayer de construire cette francophonie qui cherche à être une autre mondialisation. C'est en 2005 qu'une nouvelle charte a été adoptée. Christian Valentin insiste avec raison sur le rôle considérable de TV5 Monde, radio créée en 1984, média présent partout sur la planète. Les émissions proposées par cette chaîne francophone multilatérale, mondiale et généraliste sont très appréciées. Pensons à Reflet Sud, qui présente un Sud aux richesses culturelles et humaines fabuleuses et capable de générer du développement. Autre série passionnante à signaler, Affaires de goûter, ou Art, ART, plus loin Tisan, T-I-S-A-N-S, ou encore Afrique plurielle. La réussite de TV5 Monde peut être également attribuée à la contribution essentielle de partenaires pédagogiques. Par exemple, l'AFP, l'Agence France Presse, qui propose un réseau mondial au service de 420 000 étudiants installée dans 137 pays, ou encore au Cavilam, ce carrefour français des cultures du monde qui reçoit des stagiaires de plus de 110 nationalités et contribue à l'innovation pédagogique pour l'enseignement des langues. À la fin de son essai, riche d'informations et d'enseignements multiples, Christian Valentin a la fierté d'écrire, je cite, « Si j'ai consacré toutes ces pages à entrer dans les méandres de l'action francophone, c'est pour prouver que la francophonie n'est ni inerte ni somnolente. Un tel témoignage mérite d'être lu. »
Installez-vous à la table de Canal Academy. Découvrez nos émissions en compagnie d'Hervé Tisse avec sa cuisine moléculaire. Pierre Feillet vous livre 5 scénarios possibles pour votre assiette en 2030. Jean-Marie Bourg pèse le pour et le contre des oméga-3. Et Robert Anton vous aide à y voir plus clair sur des compléments alimentaires. Sans oublier la chronique gastronomique de Jean Vito.
Le deuxième livre est d'Yvon Gattaz et s'intitule « Les ETI », c'est-à-dire les champions cachés de notre économie, 30 histoires d'entreprises de taille intermédiaire, Bourin éditeur 2010. Ce deuxième livre est signé par un éminent académicien d'un dynamisme ébouriffant et magnifique. Il nous présente l'histoire d'une trentaine d'entreprises de taille intermédiaire. Pour tous les Français et francophones tournés vers l'économie, ce livre est un véritable vade-mecum de ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans le domaine économique. Yvon Gattaz écrit avec justesse, je cite, « Nous croyons à la vertu irremplaçable de l'exemplarité et nous pensons que ces histoires d'ETI, c'est-à-dire entreprises de taille intermédiaire, peuvent susciter des vocations chez de nouvelles entreprises généralement petites. Ce livre magistral devrait être lu dans toute la francophonie agissante, aussi bien au Maroc et en Tunisie que partout en Afrique. Il donnerait à la fois des ailes, si nécessaire, au moteur pour s'élever. La francophonie économique a trop souvent été délaissée. Ce livre, qui révèle une bonne partie des secrets de la réussite, doit être lu par tous ceux qui veulent construire concrètement leur avenir. Un livre à lire, à relire et à apprécier au maximum. Il est écrit et présenté par un homme qui connaît à la perfection le sens des mots, sauf celui de retraite. Le troisième est un ouvrage collectif, publié à la revue Géoéconomique. Il s'intitule « La francophonie face à la mondialisation, Institut Choiseul 2010 ». Ce troisième ouvrage, paru sous l'égide donc de la revue Géoéconomique, est titré « La francophonie face à la mondialisation », je viens de le dire. Au fil des articles signés par des personnalités comme Jean-Pierre Raffarin, Abdou Diouf, Anne Gazot-Secret, Bernard Cerchiglini et Marie-Christine Saragosse, pour ne citer que les plus connus, on constate avec plaisir qu'à l'heure du 40e anniversaire de la francophonie institutionnelle, cette dernière est devenue un acteur reconnu et respecté au sein des relations internationales. Parmi tous les articles, parfois légèrement répétitif, ce qui est plutôt un plus du point de vue pédagogique, retenons la communication d'Anne Gazot-Secret. Elle mérite que l'on s'y attarde un instant. Elle porte sur, je cite, « francophonie et diplomatie d'influence ». Si l'auteur pense que la francophonie est un atout essentiel pour la France, elle considère cependant qu'il lui manque encore une vision d'avenir et un pilotage politique clair, lequel permettrait d'articuler de manière intégrée les enjeux linguistiques, culturels et politiques. Voilà un bon sujet de débat à proposer. Et Anne Gazot-Secret d'ajouter, je cite, « La stratégie d'influence de la France a besoin de faire de la francophonie un objectif de premier plan, comme elle l'a fait de l'Europe. Ainsi pourrait-on donner à la diplomatie française une audace et une lisibilité qu'elle a perdue au fil des années. » Fin de la citation. Il s'agit d'une opinion qui mérite d'être écoutée. C'est bien toujours ce leitmotiv de la dispersion qui revient lorsqu'on évoque la francophonie. Reconnaissons que son secrétaire général, M. Abdou Diouf, qui vient d'être élu pour la troisième fois, a beaucoup fait pour essayer de resserrer les enjeux. Mais rien n'est jamais gagné dans un domaine complexe et fluctuant. Pour donner à nos auditeurs une vue encore plus large sur les publications liées à la langue française et au combat de la francophonie, j'ai retenu deux autres livres importants. Le premier, qui s'intitule « L'avenir dégagé », offre une série d'entretiens avec le grand poète québécois Gaston Miron. Donc Gaston Miron, « L'avenir dégagé », entretien 1959-1993, édition préparée par Marie-André Baudet et Pierre Neveu, édition de l'Hexagone 2010, en vente à la Librairie du Québec, 30 rue Gay-Lussac, 75-005, Paris. Je signale à nos auditeurs que j'ai écrit un essai qui s'intitule donc Axel Maugé, Gaston Miron, une passion québécoise, avec un avant-propos de l'ancien Premier ministre du Québec, Bernard Landry, édition Humanitas 1999, que l'on trouve aussi à la Librairie du Québec. Sur ce poète, puissant et généreux. Et à la fin de ce livre, j'ai mis en annexe un questionnaire. Donc, je signale à nos auditeurs que j'ai écrit un essai sur ce poète puissant et généreux. À la fin de ce livre, j'ai mis en annexe un questionnaire inédit rédigé par Gaston Miron à ma demande. Il est assez rare de rencontrer un poète qui est en même temps un homme d'action. Cet écrivain engagé en faveur de la liberté, hélas disparu en 1996, je l'ai bien connu. C'était un patriote qui n'a cessé de s'expliquer et de se raconter tout au long de sa vie. Dans ce livre émouvant, Marie-André Baudet et Pierre Neveu proposent une sélection de nombreuses entrevues que le poète a accordées à la presse écrite et électronique. Au fil des pages, Miron débat sur la situation culturelle du Québec, du statut de la langue française, du combat politique en faveur de l'indépendance. Et s'il met du temps à accepter de parler de sa pratique poétique, ses propos quand il y vient, et particulièrement ses échanges avec son traducteur brésilien Flavio Aguiar, s'avèrent une véritable leçon d'écriture. Au fil des entretiens, Gaston Miron approfondit sa réflexion sur des sujets tels que la norme linguistique ou les rapports entre langue orale et langue écrite, en même temps qu'il en profite parfois pour revenir sur son passé et fournir à ce sujet des détails nouveaux. Dans leur introduction, Marie-André Baudet et Pierre Neveu rappellent à juste titre que dès la fondation de la maison d'édition L'Hexagone, la fameuse maison d'édition L'Hexagone, en 1953, donc au Québec, Miron était devenu le chroniqueur presque unique de cette aventure éditoriale qui aspirait à faire de la poésie une force agissante en mutation, en train de se redéfinir comme québécoise. Il faut souligner le beau travail éditorial effectué par Marie-André Baudet et Pierre Neveu, qui ont su proposer au lecteur un appareil de notes explicatives suffisantes pour la compréhension des allusions aux personnes et aux événements mentionnés. Gaston Miron est au Québec résistant, ce que Jean Cassou, avec d'autres bien sûr, a été pour la France résistante dans un contexte plus dramatique. Des hommes d'honneur, une manière irremplaçable de se tenir debout face à la réalité oppressive et angoissante, face à leurs contemporains et devant les générations futures. Ce livre magnifique éclaire Gaston Miron, c'est-à-dire l'homme, son parcours et son œuvre. Le deuxième livre choisi est celui d'un autre poète, cette fois celui d'un artiste franco-chilien, Pablo Poblete, qui dans un recueil intitulé Poème, je cite, poème d'amour d'un immigrant clandestin à Marianne, donc Pablo Poblete, poème d'amour d'un immigrant clandestin à Marianne, Émergence Amazonias Édition, Paris Santiago. Pour se procurer ce très beau recueil de poésie, veuillez utiliser le courriel suivant, poésie Pablo Poblete, @ g comme Georges, gmail.com, mail comme un mail. À signaler aussi du même poète, poème d'amour à une petite fille de l'Amazonie, c'est très beau. Donc dans ce recueil, poème d'amour d'un immigrant clandestin à Marianne, il chante avec lyrisme son amour pour la France et à sa façon qui est celle d'un homme de passion, il prend la défense des opprimés, des clandestins, de ceux qui rêvent de cette France, à la fois rêve, désir, aspiration. La France si féminine, Pablo Poblete, la chante avec munificence. Il faut lire et apprécier cette poésie inspirée, inspirante. Avec ce nouveau recueil de poèmes, Pablo Poblete entre dans la cour des poètes français et francophones qui comptent. Sa très vive sensibilité et son lyrisme nous touchent. En poète souverain, il donne de belles réponses à ceux qui s'inquiètent de ne pas voir d'humanité dans la mondialisation. Belle réponse, superbe réponse au désir d'Abdou Diouf, de Christian Valentin et de tant d'autres qui veulent apporter une réponse à la déshumanisation de ce monde. Lisez Pablo Poblete, il donne des réponses, il s'insurge contre les indifférents, il fustige ceux qui ont oublié l'histoire. Hier, les Occidentaux venaient coloniser le monde. Aujourd'hui, leurs descendants cherchent nos trésors les plus beaux, ceux qui sont sertis dans notre langue. Pablo Poblete est un homme emporté par le courant des mots, des amitiés, des fidélités, de l'amour et du partage. Il symbolise, mieux que d'autres, la force du donner et du recevoir. C'est un poète fondateur. Je cite « Mon histoire avance auprès de toi plus vite que tu ne l'imagines. » C'est beau, c'est emporté, c'est réconfortant. Pour clore cette chronique sur les livres français et francophones, j'ai choisi le dernier essai de Gérard de Cortance, « Passion de la langue française », chez l'éditeur Desclés de Brouwer 2010, Gérard de Cortange nous propose un florilège de 33 textes essentiels sur le génie de notre langue. Pour l'histoire, Dubelé comme Rémy de Gourmont sont au rendez-vous. Pour le style, Gabriel de Breuil côtoie Paul Valéry. Pour le combat, René Thiamble, Maurice Druon, Jean Dutour et Hélène Carrière d'Encausses n'hésitent pas à sonner la charge. Pour la langue, on retrouve Raymond Queneau, André Brincourt ou encore François Taillandier. Et pour la francophonie, le cinquième et dernier chapitre du livre défile Julia Kristeva, Sangor, Andrei Makine, Tahar Benjelloun et François Cheng, à qui cet essai est dédié. Visiblement, Gérard de Cortanz a, comme Albert Camus, une patrie, la langue française. Son choix est rayonnant. Il rappelle les plus belles formules de ses auteurs favoris. Quand la France a-t-elle été grande? Quand elle n'était pas retranchée sur la France? Vous avez reconnu là la signature d'André Malraux. L'auteur a raison de confesser qu'il est romantique et qu'il est du côté de Monterland lorsque ce dernier écrit à son fils, je cite, « Il faut être fou de hauteur ». Et du côté de Cocteau qui, je cite, sauve le feu quand une maison brûle. Chers auditeurs, lisez les livres que je viens de vous présenter. Ils vous apporteront mille informations et plaisirs. Et comme l'écrit si bien Gérard de Cortanz, je cite, c'est cela la langue française, une terre de promesses et une espérance. Je vous remercie et à la prochaine fois. Au revoir.